France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Avant lui, des sociétés insulaires peuplaient la Caraïbe depuis des millénaires. Si elles restent mal connues du grand public, elles ont cependant développé des structures politiques, religieuses, culturelles, denses et ramifiées dans les grandes et petites Antilles depuis plus de 7000 ans. Pourquoi nos connaissances concernant ces sociétés, qu'elles appartiennent à la culture Taïno ou Kalinago, sont-elles encore partielles? Quels effets la colonisation a-t-elle eu sur nos représentations de ces aires culturelles caribéennes? Et comment l'archéologie nous conduit-elle aujourd'hui à mieux appréhender la richesse et la complexité de cette mosaïque de communautés de la Caraïbe précoloniale? Une exposition qui a lieu en ce moment à la Martinique apporte des éléments de réponse à ces grandes questions, et il en sera évidemment question aujourd'hui. Avec vous, André Delpuech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, conservateur général du patrimoine, chercheur associé au Centre Alexandre Coiré, commissaire de cette exposition aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago, qui se tient jusqu'au 12 avril 2026 à la Martinique, à la Fondation Clément, une exposition en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces sociétés amérindiennes qui peuplaient la Caraïbe avant la colonisation espagnole, avant de parler de cette archéologie de la Caraïbe, nous voulions vous faire entendre une voix, celle de Leïla Chahid, diplomate et déléguée générale de la Palestine en France, puis auprès de l'Union européenne, qui s'est éteinte cette semaine à l'âge de 76 ans. Le 2 octobre 2000, l'ami Vincent Charpentier la recevait dans le Salon Noir sur France Culture. Leïla Chahid parlait alors de l'importance de l'archéologie en Palestine.
Nous considérons que la Palestine, et c'est ça sa richesse, c'est ça son importance, elle est un lieu de convergence de toutes les civilisations. Et que nous sommes fiers d'être aujourd'hui les citoyens habitant ce pays, et j'espère un jour cet État, qui représente cette multiplicité. Nous sommes une société laïque, nous avons des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, et que nous serons très heureux d'avoir une constitution qui permet d'intégrer toutes ces entités, et surtout nous serons très heureux de trouver dans la recherche archéologique la preuve de cette diversité, qui est d'ailleurs le seul moyen d'une réconciliation réelle de toutes les civilisations, donc de tous les peuples, donc de tous les États. C'est ça la paix. La paix, c'est de faire la paix avec ce qu'on est. Et je voudrais beaucoup que l'archéologie puisse être débarrassé, délivré de la bataille nationaliste.
André Delpuech, l'archéologie comme moyen de réconciliation entre les peuples, entre les nations, ça vous parle, j'imagine?
Ça me parle, et c'est en plein dans un séminaire que j'anime au Quai Branly avec Anne Le Herf, ma collègue, où on voit malheureusement que souvent l'archéologie peut être instrumentalisée, comme vient de le dire Leïla Chahid, par des nationalismes, par des idéologies, par des religions. Et s'il y a un terrain qui est tellement sensible, c'est Palestine-Israël, où là on voit bien que l'archéologie n'est absolument pas neutre, contrairement à ce qu'elle devrait être. Mmh. On va aller chercher des origines, et qui dit parler d'origine, dit de qui étaient les premiers, enfin c'est une espèce de course qu'on retrouve dans le monde entier, une archéologie qui peut être dévoyée.
Et c'est intéressant parce qu'il y a un curieux écho finalement avec notre sujet du jour, cette notion d'origine de la Caraïbe. Aux origines de la Caraïbe, c'est le titre de l'exposition dont vous êtes le commissaire. On va en parler, bien sûr, on va, après cet hommage à Leïla Chahid, on va rentrer dans notre sujet, à quel constat, à quelle problématique de départ vient répondre cette exposition et ce travail muséal, muséographique?
Elle répond à une sorte d'impensé de l'archéologie et de l'anthropologie française et même au-delà, qui est que, passez-moi l'expression, on a un peu zappé que la Caraïbe, les îles des Antilles, ont été peuplées pendant des millénaires. Alors tout le monde connaît l'histoire de Christophe Colomb, qui débarque là aux Bahamas un beau jour d'octobre 1492, mais souvent on est resté sur des visions très condescendantes, très caricaturales, liées aux Espagnols, puis plus tard aux colonisateurs français et anglais, présentant ces sociétés comme très primitives, et qui sont passées un peu aux oubliettes de l'histoire, puisque 30 ans plus tard, on est arrivé au Mexique, avec les Aztèques, un peu plus tard les Incas au Pérou, qui finalement ont fait qu'on a oublié que pendant 30 ans tout se joue dans cet espace caribéen, et surtout qu'il y a là des gens qui vivent là depuis des millénaires.
Ça, c'est intéressant, vous parlez des Mayas, des Aztèques, des Incas, qui sont très connus pour le coup dans la culture occidentale populaire, même on perçoit, on voit, on s'imagine ce que pouvaient être ces sociétés-là. En ce qui concerne les sociétés caribéennes, pas du tout, alors que chronologiquement, c'est elles qui ont été les premières à être colonisées par les Espagnols. Comment expliquer cette impensée-là, cette invisibilité-là?
Elle revient à plusieurs raisons. Bien sûr, il y a ce fait que ces peuples ont disparu ou quasiment. On verra qu'ils ont survécu au travers, d'ailleurs, de populations, mais aussi d'un certain nombre d'héritages transmis dans les sociétés créoles. Mais ces sociétés, comme celle d'Amazonie et comme on pourrait dire ça ailleurs dans le monde, sont des sociétés du monde végétal qui construisaient leurs monuments en bois, et dont les traces étaient beaucoup plus fugaces, beaucoup plus éphémères que les statues en pierre ou les monuments en pierre. J'aime bien parler d'une forme de syndrome des trois petits cochons, quoi.
Expliquez-nous ce syndrome.
Les petits cochons, il y a le premier et le second qui construisent en paille et en bois, et évidemment, c'est détruit par le loup, alors que la pierre résiste. Et dans l'Occident, le mot patrimoine, le mot archéologie, est avant tout lié à du dur, à de la pierre, à des statuettes en or ou en jade et autres. Et ces sociétés-là ont produit autre chose. Mais pour autant, l'archéologie, justement, révèle complètement les erreurs qu'on a pu commettre et nous dévoile des sociétés très évoluées, très développées.
Quels sont justement les principaux biais ou représentations erronées à éviter quand on monte une exposition comme celle-ci ? Quels sont les principes de départ à rappeler ?
Il y avait à évacuer une dichotomie qui s'est établie pour la première fois dès le premier voyage de Christophe Colomb et qu'on va retrouver ailleurs dans le monde. C'est le côté des bons sauvages d'un côté, dont les Taïnos, les habitants des Grandes Antilles, vont devenir le sort de prototype, et les sauvages irrécupérables, je mets sauvages évidemment entre grands guillemets, cannibales, etc., qui eux sont irrécupérables, passez-moi l'expression, et qu'il va falloir détruire. Et cette dichotomie va vraiment rentrer dans la tête des conquistadors, va être véhiculée aussi, y compris dans les livres scolaires. Je m'amusais, pour préparer cette exposition, à voir des livres scolaires d'il y a pas si longtemps, à propos de la Caraïbe. Il disait, il y a les gentils Arawak, Taïnos dans les Grandes Antilles, vraiment presque peace and love. Mmh. Et à côté de ça, les Caraïbes cannibales. Et d'ailleurs, on pense que le mot Caraïbe et cannibale, Caribe, cannibe, viennent de la même étymologie. Et donc ça, il faut chasser ces visions simplistes de notre tête.
Autre vision simpliste, l'idée que cet archipel, ces îles, communiquaient finalement assez peu entre elles, qu'il y avait assez peu de monde. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler.
Alors je préfère parler d'archipel que d'île, parce que la notion d'île, là aussi dans notre schéma de terrien souvent, c'est une frontière, la mer est une frontière, et on est isolé dans son île. Alors que là, nous avons affaire à des grands navigateurs, avec des grandes pirogues qui font 15-20 mètres de long, creusées dans un tronc d'arbre, et ils naviguent dans l'espace caribéen très facilement. Et donc, la mer est un lien. Et chaque île, en plus, dans la Caraïbe, c'est relativement facile de naviguer, puisque quasiment d'une île à l'autre, on voit l'île suivante. Et toutes les preuves de l'archéologie, la documentation qu'on a, les résultats d'archéologie au travers du commerce des objets et des matériaux montrent que c'est un grand archipel. Malheureusement, la colonisation a fracturé cet espace. Telle île était devenue espagnole, telle autre est devenue anglaise, telle autre est devenue française. Ce qui fait que les gens de la Guadeloupe ou de la Martinique vont aller plus facilement en France, hexagonale, et finalement pas connaître Porto Rico ou le Venezuela qui sont à 500 km d'eux.
Alors on va parler de cette population caribéenne et de la longue, le long établissement finalement de population et de société dans cet espace caribéen. Qu'est-ce qu'on sait du premier peuplement, du tout premier peuplement de la Caraïbe, même si ce ne sera pas central dans notre discussion, il faut bien situé dans le temps.
On a la preuve de peuplements anciens qui remontent environ à 4 à 5 000 ans avant notre ère, à Cuba, ou dans l'actuel Haïti-Saint-Domingue, enfin ce qu'on appelait autrefois Hispaniola, que Christophe Colomb a baptisé Hispaniola, et qui viennent sans doute ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Mais je pense un peu comme on l'a fait pour les Amériques, où pendant longtemps on disait c'est pas plus vieux que 12 000 ans, aujourd'hui il y en a des dates à 25 000, à 30 000, parce qu'on les cherche. Je suis persuadé que dans la Caraïbe on va trouver plus anciens, parce que naviguer dans la Caraïbe depuis les continents, c'est pas si loin que cela, et ça reste à trouver. Mais on a ces premiers peuplements, en tout cas, qui remontent à ces cinquième millénaire, sixième millénaire.
Mais c'est encore assez lacunaire, d'un point de vue archéologique, on n'a pas encore de données trop importantes concernant ces tout premiers peuplements. Peut-être que ça commence à s'épaissir pendant le second peuplement, ces données-là, ces connaissances archéologiques, est-ce qu'on peut dire de ça ?
On a un moment clé, effectivement, qui va se passer vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, où des sociétés de la région de l'Orénoque, de la vallée de l'Orénoque, ont développé une culture très florissante, qu'on appelle la culture de Saladero, vers 2500 avant Jésus-Christ, comme on en trouve ailleurs en Amazonie. On sait maintenant que l'Amazonie est une terre incroyablement riche et ancienne de peuplement et de civilisation. Et ces cultures de Saladero, vers 500, ces peuples faisant la céramique dit de Saladero, vont prendre la mer et s'embarquer depuis Trinidad et remonter l'arc des Petites Antilles, gagner les îles Vierges, puis Porto Rico et l'actuelle République dominicaine. Et là, c'est vraiment une expansion assez rapide, en un ou deux siècles, à l'échelle archéologique. Et ces gens-là vont apporter deux choses fondamentales. Bien sûr, une céramique très belle, avec l'exposition présente des vases, des adornos.
C'est vraiment dommage que la radio n'ait pas l'image. Parce que
magnifiques, jouant sur des couleurs blancs et rouges, montrant une grande technique céramique. Mais surtout, ils vont apporter avec eux l'horticulture. Et un tas de plantes, on l'a oublié, ça, que l'ancien monde ne connaissait pas, et que Colomb et ses conquistadors vont découvrir, à savoir le manioc, le maïs, la patate douce, le tabac, etc., etc. On pourrait citer, à tel point que parfois, quand je fais des conférences, notamment pour le jeune public, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on mangeait en Europe avant que l'Europe ne rencontre l'Amérique?
Pas grand-chose, en tout cas, beaucoup de choux.
Pas de pizza avec de la tomate, en tout cas.
Ça, c'est certain. Parlons de cette transition, quand même, durant ce peuplement par les sociétés de culture de Saladero. On passe d'une extraction terrienne, forestière, à un espace plus tourné vers la mer. Comment ça se traduit dans les vestiges matériels, cette transition-là qui s'opère?
C'est passionnant et justement, c'est un travail sur lequel tous les archéologues de la région travaillent. C'est comment des sociétés, effectivement, de la forêt tropicale amazonienne, du fleuve, l'Orénoque, c'est quasi l'Amazone, on est sur ces grands fleuves de l'Amérique du Sud, vont s'adapter au milieu insulaire. Ça se voit notamment dans les fouilles, au travers, évidemment, d'une ressource marine très utilisée, les poissons, la pêche, les coquillages. On a aussi des mammifères marins, des lamantins, etc. Donc, il y a vraiment une grande consommation de ces ressources marines. Et ce qui va être aussi passionnant pour nous, c'est de voir, y compris une adaptation dans les matériaux pour faire des outils, des haches avec la lèvre du lambis, cette grosse conque qu'on retrouve dans les espaces, mais aussi un tas d'amulettes, de sculptures, de têtes sculptées dans des coquillages qui font partie de l'originalité de cette culture. Et l'exposition montre parfois des pièces toutes petites. Mmh. J'ai souvenir d'un petit requin qui fait environ 2 cm de long qu'on a trouvé lors de fouilles qu'on faisait en Guadeloupe quand j'étais en poste là-bas comme archéologue. C'est des petits bijoux, mais en coquillage, et ça inspire, et on voit aussi toute la qualité de ces civilisations, entre leur céramique, leur production aussi lapidaire. On retrouve, et l'archéologie le montre, une utilisation de ressources de pierres semi-précieuses qui vont voyager sur des centaines de kilomètres. On a des pièces qui viennent d'Amazonie, on a des pièces qui viennent des Grandes Antilles, qui prouvent parmi tous les éléments qu'on a, une intense circulation entre les îles.
Échange constant aussi entre le continent et cet espace.
Et réciproquement.
L'archipel. Comment on passe de ce second peuplement de culture de Saladero à ces Taïnos dont on parle dans cette exposition, dont vous parlez dans cette exposition? Est-ce qu'il y a une transition lente? Comment décrire finalement l'émergence de cette unité culturelle-là baptisée Taïno?
Les sociétés dites de Saladero sont déjà des sociétés très sophistiquées. On évoque même si l'archéologie, il faut être prudent avec l'archéologie, on parle déjà de chefferie. Mmh. Toujours est-il qu'on va avoir d'abord, à partir du 7e, 8e siècle de notre ère, une autre expansion, une poursuite de l'expansion de ces peuples horticoles qui vont gagner l'ensemble de Hispaniola, la Jamaïque, Cuba et les Bahamas. Et là, à partir du 8e siècle, en particulier à Porto Rico, un petit clin d'œil à Bad Bunny, à Porto Rico, on va voir se développer à partir du 8e siècle des sociétés très développées, très hiérarchisées, qui vont devenir ce qu'on appelle les Taïnos. On considère que ce qu'on appelle aujourd'hui les Taïnos, c'est à partir du 12e siècle environ. Et là aussi, ces sociétés, contrairement à ce qu'a décrit Colomb, qui a vu que des gens nus vivant misérablement, en fait, c'est des sociétés très hiérarchisées, avec des caciques à leur tête. Le mot cacique, d'ailleurs, est un mot Taïno, avec une sorte d'aristocratie, les Nitaïno, avec des travailleurs, avec des chamans, et avec une grande densité de population dans ces îles. Là aussi, révisons nos points de vue.
Grande densité de population, on a des estimations du nombre de gens qui habitaient ces îles avant l'arrivée des Espagnols?
C'est difficile à dire, mais on parle, on va dire pour Hispaniola, de chiffres entre 500, 1 million, 2 millions d'habitants. Vous savez, la démographie préhistorique est quelque chose d'un peu hasardeux. Toujours est-il qu'on a des villages de plusieurs milliers d'habitants, on en trouve les vestiges, on a des grands terrassements, des canaux d'irrigation. Colomb lui-même, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il va appeler cette île Hispaniola, Haïti-Saint-Domingue aujourd'hui, c'est parce qu'il voit des champs cultivés à perte de vue. Donc on a une population très dense, mais qui va s'effondrer rapidement, évidemment, par les guerres de conquête et le choc microbien surtout qui va les anéantir.
Quand on parle de cette ère culturelle des Taïnos, on est plutôt dans les Grandes Antilles. Qu'est-ce qui rassemble ces populations? Qu'est-ce qui fait finalement cette unité culturelle des Taïnos?
Les Taïnos, alors, aujourd'hui, les archéologues remettent un peu en cause le mot de Taïno, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les Taïnos comme une nation Taïno avec des frontières. On va plutôt parler de mosaïque Taïno. Mmh. Il faut bien utiliser...
Mosaïque de communauté.
Mosaïque de communauté qui ont un fond commun au niveau économique, comme la culture du maïs, patates douces, etc. Le jardin tropical, ce qui est devenu le jardin créole. Ils vont avoir un certain nombre de constantes dans ce qui est religion et mythe. On voit qu'ils vont traverser depuis les représentations de la culture de Saladero, qui sont leurs ancêtres, jusqu'au XVIe siècle. Par exemple, le binôme chauve-souris-grenouille, la chauve-souris étant plutôt l'élément mâle, la grenouille l'élément femelle. Bref, on a comme ça des grandes constantes, la pratique du jeu de balle qu'on va retrouver en différents lieux, un jeu de balle très sacré, un peu à l'image du jeu de balle chez les Aztèques ou chez les Mayas. Et donc on voit ce continuum qui fait que au-delà des évolutions typologiques et chronologiques que les archéologues s'ingénient à construire pour mieux comprendre, on voit quand même une certaine unité de tous ces peuples. On voit aussi combien il faut se les représenter comme des Amazoniens. Il faut imaginer qu'un Taïno ou plus tard un Kalinago, pour se l'imaginer, c'est un homme qui effectivement pour les Européens, va apparaître nu, mais en fait, il n'est pas nu. Il est paré de peinture corporelle, il a le crâne déformé, il va porter des parures de plumes, de coton et autres. Et en fait, c'est l'œuvre d'art, d'ailleurs, majeure de ces sociétés amazoniennes et caribéennes, c'est le corps lui-même. Alors qu'au niveau de la culture matérielle, parfois, c'est plus limité, même si les Taïnos ont développé un art exceptionnel.
Et là, cet art, il est bien sûr présent dans cette exposition aux origines de la Caraïbe qui est présentée à la Fondation Clément à la Martinique. Je ne peux pas résister, André Delpech, à vous demander de décrire certains de ces chefs-d'œuvre de la culture Taïno.
On a des pièces assez remarquables et là il faut voir que l'exposition bénéficie de prix exceptionnels aussi bien du musée du Quai Branly. Nous avons des pièces venant du musée du Vatican, de Londres, de Berlin et puis aussi bien entendu de la région caraïbaine, Guadeloupe et Martinique, mais aussi République Dominicaine ou Porto Rico. Parmi les pièces les plus spectaculaires, il y a ce qu'on appelle des duos qui sont des sortes de sièges cérémoniels taillés dans un bois imputrescible qui s'appelle le gaillac, qui a aussi des vertus magiques et médicinales et qui est par essence le symbole du chef. S'asseoir sur un duo, uniquement les gens de haut rang peuvent s'y asseoir, et c'est vraiment le symbole d'autorité. Et par ailleurs, ce sont des pièces exceptionnelles, taillées dans du bois avec des incrustations qui pouvaient être en or, en coquillage. Malheureusement, souvent, l'or a disparu. Donc ça fait partie des pièces remarquables. On a aussi des urnes funéraires. Le musée de Bar-le-Duc, dans le nord de la France, par une histoire assez rocambolesque, possède une urne funéraire exceptionnelle du XIe siècle, qui est en fait en ronde bosse la sculpture d'un homme de haut rang et dans lequel des ossements humains étaient insérés. Et puis on a des pièces très énigmatiques dans les Antilles et là aussi qui sont une continuité depuis les Saladero jusqu'au Taïno. C'est des choses que les archéologues, faute de mieux, appellent les pierres à trois pointes. C'est des objets qui ont en commun d'être d'une forme triangulaire quand on le regarde de profil, mais ils seront très disparates. On va en avoir certains qui font 2 cm de long, de taille plutôt, comme on en a trouvé lors de fouilles par exemple en Guadeloupe. Et puis, on a des pièces qui font 40-50 cm, ornées de têtes sculptées, d'animaux, de serpents enroulés. C'est vraiment fascinant. Visiblement, vu leur forme, ces pièces étaient structurées et posées sur des structures en bois. Mais alors, qu'est-ce qu'elles signifiaient ? Là, c'est les limites de l'archéologie. Quand on touche au domaine du religieux, du mythique, on peut observer des choses, on peut observer des constantes, parfois on peut déchiffrer certains symboles, mais ces pierres à trois pointes restent un mystère et font l'objet de débats et de colloques sans fin.
Il y a aussi des objets qui sont peut-être plus prosaïques, des spatules un peu particulières.
Alors on a des spatules vomitives, dites vomitives, puisqu'en fait les Taïnos pratiquer la prise de substances hallucinogènes, enfin les Taïnos, les chefs Taïnos et surtout les chamans, comme on en connaît dans d'autres parties des Amériques. Là, on inhalait une substance qu'on appelle la caoba, qui est un arbre connu, les graines de cet arbre. Et pour entrer en contact avec les esprits, en fait, le chaman sniffait. Alors on a aussi des inhalateurs en forme de Y, qui parfois sont des petits chefs-d'œuvre sculptés en bois ou en os. Mais avant, pour être complètement purifié, on va se faire vomir à l'aide de ces spatules. Et en particulier, on a des spatules en bois qui sont magnifiques. Donc, c'est une longue tige qu'on va se mettre au fond de la gorge. Mais au sommet, il y a souvent une sculpture magnifique. C'est un raffinement assez exceptionnel. À la suite de ça, le chaman rentre en contact avec les esprits et qui vont lui dicter un certain nombre de choses sur la guerre, sur les alliances matrimoniales, sur les récoltes, etc.
André Delpuech, on parle depuis tout à l'heure de ce qui rassemble ces communautés taïno dans l'archipel de la Caraïbe. On n'a pas encore parlé de l'unité ou pas linguistique. Quelle langue parle...
Alors là aussi, l'exposition défait un cliché qui malheureusement s'est maintenu pendant très longtemps. Quand les Européens sont arrivés, ils ont enregistré, si je puis dire, quelques éléments du langage des Taïnos et de leurs voisins des Grandes Antilles, et que les linguistes plus tard ont qualifié de langue arawak, d'une grande famille linguistique qu'on retrouve en Amazonie. Et puis arrivé chez les Kalinago, il semblait que les hommes en particulier parlaient une langue différente, alors que les femmes semblaient parler plus ou moins la même langue. Et on a raconté cette histoire simpliste, c'est que les femmes étaient des femmes arawak descendantes des Saladeros, dont les maris ou les hommes avaient été tués par les envahisseurs Kalinago, qui étaient des Caraïbes, à l'époque on les appelait pas Kalinago, qui parlait une langue caraïbe. Ça, c'est complètement faux. Tous ces gens-là, des petites Antilles, les Kalinago, ce qu'on appelait autrefois les Caraïbes insulaires, parlent en fait une langue arawak. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrête de les appeler Caraïbes, parce que sinon, on s'y retrouve plus. Il existe une famille linguistique caribe, qu'on retrouve chez les Kalinas de Guyane, par exemple. Et en fait, les guerriers Kalinago, qui étaient à la fois des grands commerçants et des grands guerriers, qui circulaient dans tout l'espace antillais et aussi sur les Guyanes, avaient des éléments de langage caraïbe qui leur servaient lors des échanges, lors des contacts avec les communautés caraïbes du continent. Et c'est vrai que c'était une langue réservée aux humains, comme il y avait une langue aussi plus pour les anciens, aux hommes, pardon, oui. et comme il y avait une langue aussi pour parfois les anciens. Mais ça, c'est des choses qu'on reconnaît par ailleurs. Donc tous ces gens-là, pour faire simple, parlent arawak. On les appelle Kalinago, puisque c'est par ce terme même qu'ils se désignaient au XVIIe siècle, quand un missionnaire, le père Breton, a vécu plusieurs années chez eux et nous a laissé un fameux dictionnaire qui nous renseigne beaucoup sur cette société.
Alors là, on se tourne du coup vers les petites Antilles où habitent ces Kalinago. On a décrit les structures sociales, politiques, religieuses qui étaient celles des Taïnos. Pour les Kalinago, les choses sont plus complexes et différentes.
Les Kalinago, c'est plus complexe, plus différent. On avait des sources écrites, hein, notamment grâce aux missionnaires français, puisque rappelons que les Français s'installent dans la Caraïbe, en Guadeloupe et en Martinique en 1635. En fait, c'est dans la première moitié du XVIIe siècle que les Anglais et les Français vont véritablement coloniser les petites îles des Antilles délaissées par les Espagnols. Et là, les peuples qu'ils vont rencontrer, évidemment, on a des informations, et notamment de la part de tous ces missionnaires français et de quelques profanes, mais en général c'est plutôt des missionnaires. Donc ils nous racontent un tas de choses sur ces Kalinago, mais déjà il faut être un peu prudent, puisque ils décrivent une situation qui est 150 ans après l'arrivée des Européens, où déjà les choses ont pas mal bougé. Néanmoins, ce qu'on en sait, c'est que ces sociétés sont très différentes des sociétés Taïno, des Grandes Antilles. On a maintenant des renseignements par l'archéologie, enfin on a trouvé des sites de l'époque de contact, donc on est sûr que ces gens-là ont vu les Européens, et donc sont bien les contemporains de ce qu'on a appelé les Kalinago. C'est des petites unités. On est dans des sociétés beaucoup moins hiérarchisées, où en fait la hiérarchie se limite au niveau du village. Il y a le chef de village, les villages sont des petites communautés très mobiles, qui peuvent déplacer leurs habitants en fonction aussi des travaux des champs. Là, c'est une culture sur brûlis dans la forêt. On n'est pas du tout dans la même structure. Mais néanmoins, ils vont s'allier régulièrement. L'aura d'un chef va inviter ses congénères, et lors d'une grande fête de bière de manioc, hein, ce qu'on appelle le wiku, on va les inciter à partir en guerre, par exemple contre les ennemis intimes, ceux des grandes îles, hein, les Arawaks des îles ou du continent. C'est dans un cycle d'une vengeance immémorielle. Et ces raids guerriers qui vont entraîner plusieurs centaines de guerriers Kalinago en pagaie, qui ont même impressionné les Espagnols, vont à la fois rapter des femmes, des biens, et puis surtout capturer des ennemis au combat qu'on va ensuite tuer pour le rite cannibale qu'ils pratiquent. Et c'est évidemment ça qui a été décrit de manière horrible. On ne va pas faire l'apologie du cannibalisme, mais ce cannibalisme... On ne mange pas n'importe qui, j'aime bien dire. On ne mange que l'ennemi capturé au combat. Ce n'est absolument pas pour se nourrir. C'est pour, en fait, récupérer sa force, ingérer sa force dans un cycle de vengeance. Donc, c'est complètement ritualisé. Et évidemment, les Européens n'ont pas compris. Et tout de suite, on a pu décrire des scènes de, véritablement de boucherie. Et il y a des peintures qui en témoignent, qui sont complètement fausses.
Concernant ces Kalinagos, quelles traces matérielles on a de ces sociétés qui, comme on l'a compris, sont peut-être plus éclatées, plus difficiles à discerner les unes des autres?
Pendant longtemps, c'était un problème. On savait pas, on connaissait pas la culture matérielle de ces Kalinagos. On les cherchait, mais on n'arrivait pas à les trouver, si je puis dire. Et il y a eu plusieurs avancées significatives ces 20 dernières années. D'une part, en archéologie. Dans les îles du Sud, des petites Antilles, à Grenade, à Saint-Vincent, depuis peu à la Guadeloupe, on a trouvé des vestiges avec de la céramique amérindienne, des outils en coquillage, en pierre, associés à du matériel européen, notamment espagnol, des faïences aussi, des monnaies, du début de la conquête, donc on est au XVIe siècle. Donc on a pu reconstituer des plans de village qui ressemblent comme une goutte d'eau à ce que décrivent les chroniqueurs. Et donc là, ça y est, on est à peu près sûr. Et puis maintenant, on compare ces céramiques qu'on a trouvées, d'un style qu'on appelle le style caillot, mais ça c'est les spécialistes, avec des choses qu'il y a sur le continent, et on se rend compte que là, on a sans doute maintenant la preuve que ces gens-là viennent du continent, ils viennent du plateau des Guyanes, pas forcément la Guyane française, mais plutôt des Guyanes hollandaises, enfin ex-Guyane hollandaise, ou du Guyana, ou des Guyanes vénézuéliennes. Ça, c'est pour un premier plan.
Allez-y, je vous en
prie. Et pour le second plan, on s'est intéressé, avec un collègue, Benoît Roux, à se dire que les Français ayant colonisé ces îles, ils ont forcément ramené des objets lors de ces conquêtes, mais personne ne les avait vraiment vus, puisqu'ils étaient dans les cabinets des curiosités des rois de France ou des aristocrates. À la Révolution, tout a été mélangé, et ultérieurement, nos prédécesseurs ont rangé tout ça comme amazoniens. Et là, nous avons démontré qu'en fait, au milieu de ces pièces, il y a des casse-têtes, il y a des vanneries, des calebasses, qui se rapportent aux Kalinagos des petites Antilles. Donc voilà, petit à petit, on reconstitue leur équipement matériel.
Parmi ces casse-têtes ornées, André Delpech, certains présentent même, nous donnent à voir des connaissances que pouvaient avoir ces Kalinagos en matière d'astronomie, en matière de navigation.
C'est une de nos interprétations. Il se trouve que sur ces casse-têtes qui sont dans des bois très durs, hein, très denses, qui peuvent faire 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, dans la partie distale, on retrouve des motifs géométriques très élaborés, très structurés, très beaux d'ailleurs sur un plan esthétique, et qui, par l'interprétation de certains collègues, je pense à Dimitri Karadimas, un ami anthropologue malheureusement décédé, on pense qu'il peut y avoir représentation de constellations. Et on sait par ailleurs, grâce au dictionnaire de Breton et d'autres renseignements, que les Kalinagos avaient une grande maîtrise de l'astronomie et des étoiles, avec des désignations, avec des noms, avec des divinités. Et il faut penser que ce sont des marins qui peuvent naviguer aussi la nuit, donc ils connaissent parfaitement leur espace, le ciel qui est au-dessus de leur tête.
Je bois vos paroles, André Delpech, et je regarde pas la pendule, c'est une erreur professionnelle, mais on arrive bientôt près de la fin de cette discussion. On est quand même obligé de parler du devenir et de ce que la colonisation a fait à ces cultures-là. Est-ce qu'on peut parler d'une annihilation, ou bien est-ce qu'il y a des persistantes, des survivances de ces cultures Taïno et Kalinago dans l'actuel Caraïbe?
Ça a été un véritable drame, effectivement. Ce sont les premiers, ces habitants des Antilles, à avoir subi le choc de la conquête. Les Taïno, les premiers, donc dans les grandes Antilles, Hispaniola, va devenir le point central du départ de la colonisation européenne. N'oublions pas que pendant 30 ans, c'est là que ça se passe. Mexico et les Aztèques, c'est 1519-1521. Mais pendant 30 ans, les Espagnols vont forger ce qui va devenir une règle pour la suite. On va fonder des villes, on va répartir les Amérindiens pour qu'ils travaillent dans les mines, etc. Et il va y avoir à la fois maladie qui va décimer la population, famine, guerre, qui fait que les Taïnos vont quasiment disparaître de la surface de la Terre. Néanmoins, il y a des survivances, puisque ces conquistadors étaient des hommes. Ils ont eu des enfants de gré, ou plus souvent de force, avec des Amérindiennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les populations des Grandes Antilles, on trouve trace, génétiquement parlant, de beaucoup de présence Taïno.
Je suis très déçu de ne pas pouvoir aller à la Martinique demain pour voir cette exposition, mais je me console en disant qu'il y a ce magnifique catalogue aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago, paru aux éditions Hervé Chopin. Merci beaucoup André Delpech, et on souhaite longue vie à cette exposition, et on lui souhaite une belle itinérance dans la Caraïbe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe de Science Chrono, l'entretien archéologique. Merci à Alex Dang aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.